Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission.
Grégory, on va passer au thème de la semaine, les trophées de la saison, si tu le veux bien.
Allons-y.
Comme c'est la tradition, avant les finales de conférence, on donne les trophées de la saison parce que la NFL les annonce officiellement, je crois, un ou deux jours avant le Super Bowl. En tout cas, c'est dans la semaine du Super Bowl. Ce sera en direct de Las Vegas. On espère qu'on pourra le couvrir pour vous. Donc, du coup, nous, on le fait pendant ce fauteuil, d'autant que les nommés déjà ont été donnés pour quasiment chaque trophée. On va prendre les nommés, puis on va déjà dire s'il y a des oubliés, s'il y a des joueurs qu'on aurait pu voir dans les nommés. Puis après, on va donner nos trophées, qui ne sont pas forcément les trophées qui vont être donnés, mais ceux qu'on aurait aimé voir. Et on va commencer crescendo, on va commencer par le comeback player, le joueur revenant de l'année. Grégory, c'est toujours un trophée un peu flou, c'est vrai, c'est pas forcément... C'est difficile de voir qu'est-ce qu'on entend par revenant, par comeback player. Est-ce que c'est un joueur qui a joué? Est-ce que c'est un joueur qui n'a pas joué du tout? Je vais donner les cinq nommés. C'est Joe Flacco, Damar Hamlin, le défenseur des Bills, Baker Mayfield, Matthew Stafford et Tua Tagovailoa. On a des joueurs qui ont joué l'année dernière qui n'ont pas été très bons. Il y a des joueurs qui ont été blessés l'année dernière. C'est toujours particulier déjà ce trophée. Est-ce qu'il y a un joueur qu'on a oublié ou ça te paraît assez cohérent sur ces cinq nommés?
Il me semble pas. Après, pour être totalement transparent avec toi, j'ai pas la liste de tous les blessés notables de l'année dernière. Mais globalement, les principaux
Pour moi, il n'y a pas grand monde. Alors dans le chat, n'hésitez pas s'il y a des gens pour vous qui ont été oubliés, qui ont été blessés notables. Mais c'est vrai que déjà, pour toi, il faut que ce soit des joueurs qui ont été blessés ou pas?
Ça peut. Après, c'est sûr que pour moi, j'aurais tendance plus à... Si tu parles vraiment de comeback player de l'année, tu pars du principe que l'année dernière, ils n'ont pas joué du tout. Moi, dans mon esprit, même si en effet, on ne peut pas dire que sa saison n'ait pas été tronquée, j'ai du mal à me dire qu'un Tua Tagovailoa, par exemple, n'a pas joué en 2022. Voilà. Il y a eu une gestion de sa commotion qui a fait que malheureusement, puis sa blessure aussi en fin d'année qui condamne Miami à jouer les playoffs sans lui... Mais bon, c'est sûr que après, tout dépend le degré de blessure. Mais c'est pour ça que je te dis, je pense que tu as l'impression qu'ils font un peu dégressif. C'est-à-dire qu'ils regardent justement la liste des blessés, ceux qui ont eu une absence assez significative. Et que bon, lui, il a raté toute la saison. Bon, les autres, ça vaut peut-être pas le coup. Bon, lui, il a raté 9 matchs. Bon, lui, on peut éventuellement le mettre dedans. On met un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà. On peut considérer que c'est peut-être plus de la moitié des matchs de la saison, éventuellement, ce qui serait un tant soit peu relevant, comme on dit outre-Atlantique.
Oui, parce que si on prend tous les joueurs rapidement, Joe Flacco, il a joué 5 matchs cette saison. C'est le nombre de matchs qu'il a joué l'année dernière. Donc, c'est particulier. Damar Hamlin, on connaît l'histoire et on va en revenir parce que pour moi, ne serait-ce que par l'histoire, parce que pour moi, c'est un trophée qui est qui est menée par l'histoire. C'est l'histoire du joueur qui prime sur le trophée. On a Baker Mayfield qui a joué l'année dernière. Il n'a pas forcément été bon, mais en tout cas, il n'était pas blessé. L'année dernière,
Pour deux
Baker Mayfield,
franchises en plus,
il
il
a
a
joué
joué
dans
l'année
deux
dernière.
franchises. Stafford, lui, a été blessé. Il n'a joué que 9 matchs. Et tu as Tagovailoa, t'es revenu déjà sur sa saison l'année dernière. Il a quand même relativement. Il a joué. Mais c'est vrai que l'année dernière, il a été pas mal blessé. Mais il reste joué. Voilà, pour moi, je me lance. Mais pour moi, ça sera Damar Hamlin. Parce que, en effet, c'est l'histoire. On le rappelle, hein, c'est un joueur qui a subi un arrêt cardiaque lors d'un match entre les Bills et les Bengals. C'est un match qui avait été arrêté juste avant les playoffs l'an passé. Il est revenu cette année. Ça n'a pas été forcément un joueur majeur des Bills, encore qu'il y a eu pas mal de blessures, ce qui m'a permis notamment d'avoir du temps de jeu. Mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer pour le symbole que ce trophée aille à quelqu'un d'autre que Damar Hamlin.
Oui, je te rejoins. Moi, pour moi, alors c'est sûr que ça joue avec qui en vrai? Parce que j'ai vu Joe Flacco, mais alors Joe Flacco qui joue 5 matchs et qui potentiellement peut prétendre au comeback player de l'année,
Alors,
ça.
c'est vrai que ces 5 matchs de cette année sont bien meilleurs que les 5 matchs de l'année dernière avec les Jets. Hein. Je crois que c'est 1600 yards cette année
Oui,
et à peine 1000. Mais voilà.
on est d'accord, j'entends bien. Mais bon, tu peux pas juger un joueur sur un tiers de la saison. Moi, c'est ça qui me fait un peu tiquer. Après, c'est sûr, si tu prends le meilleur joueur intrinsèquement des 5. Moi, je le donne potentiellement. J'ai peut-être oublié un nom dans la liste, mais c'était qui le troisième?
Alors, il y avait Joe Flacco, Damar Hamlin, Baker Mayfield, Matthew
Oui.
Stafford et Tua Tagovailoa.
Sur le papier, je le donnerais à Tagovailoa, mais avec les problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure, moi, pour moi, il n'y a aucun sujet, et tu l'as très bien résumé. Voilà, c'est Damar Hamlin doit le gagner largement, rien que le fait qu'il puisse remettre un casque, c'est historique en 2023, donc ça ne fait même pas débat à mon sens.
Ouais, en effet,
On est un
je suis
peu dans la
d'accord.
même logique qu'Alex Smith il y a 3 saisons qui était revenu avec Washington.
Oui, exactement, exactement. Et c'est vrai que ça peut être là avec une blessure encore plus, et encore que celle d'Alex Smith était très grave, mais disons que bon, Damar Hamlin, une blessure qui a été encore plus choquante, peut-être avec l'arrêt du match et tout ça. On va parler des rookies désormais. On va faire un package avec les offensifs et les défensifs. Greg, on va commencer par l'attaque avec les nommés qui ont été donnés par la NFL. Jahmyr Gibbs, Sam Laporta, deux joueurs des Lions, qu'on va voir ce soir. Puka Nakua, Bijan Robinson et CJ Stroud, pardon. Alors déjà, moi je vais me lancer, mais pour moi, alors c'est toujours difficile et je ne vois pas qui on aurait pu enlever, encore qu'on pourrait en débattre. Devon Achane, qui était le rookie,
Oui.
qui était rookie à Miami, je ne lui aurais pas donné le trophée, mais il aurait peut-être mérité d'être dans les 5. Qu'est-ce que t'en dis?
Oui, je suis d'accord. Il me semble qu'il n'est pas dans ta liste, mais un Zay Flowers, par exemple, a pas été déconnant du côté de Baltimore non plus. Jordan Addison fait une bonne saison à Minnesota. Non, il y a quelques joueurs qu'on aurait pu citer. Après, les 5 noms, là, c'est pareil. Je tombe pas vraiment en match. Certains pourront tiquer avec mon vainqueur de cœur, qui est Bijan Robinson. Qui malgré tout, malgré sa bonne saison statistique, je trouve, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, mais on peut pas dire que son impact n'ait pas été notable du côté d'Atlanta en 2023.
En tout cas, ouais, très moche qui nous dit Bijan, c'est pas un intrus. Il pose la question. C'est vrai que voilà,
Un
si
intrus, tout de suite les gros mots.
ouais, disons que s'il fallait en sortir un,
Oui,
il méritait un petit
c'était
peu
mon
moins.
propos, c'était mon
Voilà.
propos.
En revanche, est-ce qu'il y a véritablement un débat sur le vainqueur de ce trophée-là?
CJ Stroud, hein, à partir du moment où on parle d'un rookie, alors on sait que l'enflammade en NFL ça va très très vite, mais à partir du moment où on se pose la question en milieu de saison de peut-être CJ Stroud MVP de la saison, c'est qu'on est quand même sur des bonnes bases. On a vu que le visage de Houston au mois de décembre avait été différent entre son absence au début du mois et son retour à la fin sur les matchs clés. Donc oui, pour moi ça fait pas de débat et c'est ça. Ce sera CJ Stroud haut la main. Ouais.
C'est vrai que là, on n'est pas sur le côté joueur qui a de la valeur, hein, comme on peut l'avoir sur le MVP, Most Valuable Player, mais ça reste tout de même, en effet, un facteur à prendre en compte. Et c'est vrai que CJ Stroud, il a été très bon quand il a joué. Et en plus, on a vu, alors c'est la nature du poste aussi, hein, de quarterback, mais on a vu que quand il était absent, c'était pas tout à fait la même chose à Houston. Et c'est vrai que voilà, en plus, il y a eu les playoffs. Alors, je le dis aussi avant de dérouler cette liste et de parler d'autres choses, et notamment pour les coachs, parce que c'est important. On prend les trophées uniquement sur la saison régulière. Alors, ils sont annoncés bien plus tard, juste avant le Super Bowl, mais c'est la saison régulière qui compte. Tu veux dire quelque
Tout à
chose,
fait.
Grégory?
Non, je voulais juste préciser parce que c'est vrai que des fois ça apparaît un peu comme le choix de la facilité. Là, en l'occurrence, CJ Stroud est le deuxième choix de la draft. Donc on peut se dire, bon, c'est pas très original d'aller chercher le deuxième choix de la draft, mais c'est toujours à mettre un petit peu en perspective. C'est-à-dire que forcément, plus on est drafté haut, plus il y a des attentes par rapport au rendement qu'on va donner. Et Malheureusement, ça va encore faire l'analogie avec Bryce Young juste au-dessus. Mais voilà, c'est sûr que CJ Stroud, il n'arrive pas sous une certaine pression en tant que numéro 2 de la draft. Et non seulement il répond à cette pression, et en plus, il fait surperformer une équipe qui était au fond du trou depuis 2 ou 3 ans maintenant, en les emmenant en playoff et en faisant passer un tour. Même si tu l'as dit, on prend surtout en compte la saison régulière. Mais malgré tout, ça se rajoute au dossier et tu ne peux pas dire que, voilà, malgré le statut de deuxième choix de draft qui pèse quand même assez lourd. Eh ben, il a parfaitement assumé ça et il a porté à bout de bras. C'est peut-être un petit peu sévère, mais en tout cas, oui, il a joué un énorme rôle dans la bonne saison des Texans.
Ouais, CJ Stroud, c'est 4108 yards cette saison en saison
C'est
régulière,
énorme.
23 touchdowns et 5 interceptions seulement. C'est peut-être la statistique la plus impressionnante pour un rookie. On le sait, les rookies, parfois, on peut avoir tendance à faire des erreurs qui se gomment au fur et à mesure de leur carrière. Lui, il a commencé déjà avec très peu d'erreurs et notamment de pertes de balles, 5 interceptions. C'est très peu pour un joueur qui a beaucoup joué, qui a joué exactement. Alors, je ne sais plus combien de matchs il a manqué cette saison.
Deux, non?
CJ Stroud, ouais, pas beaucoup.
Il y
Pas
a un match à
beaucoup.
Tennessee de mémoire et il doit y en avoir un deuxième qui traîne dans le
15
lot.
matchs,
Peut-être face à
15
Cleveland,
matchs pour lui, en
peut-être.
effet. Donc c'est vrai que 5 interceptions en 15 matchs, c'est très peu. Et bon, il y a un petit peu de débat sur le chat. On nous parle de Jahmyr Gibbs qui a été très bon. C'est vrai que tous auraient pu mériter un hein, Puka Nacua aussi qui a été bon aux Rams,
Ouais.
mais.
Alors, Pukanakua, oui, ça aussi, c'est une énorme sensation. En plus, il y a un record à la clé à l'issue de sa saison. Jahmyr Gibbs, il y a eu quand même des petites séquences par intermittence. S'il démarre pas vraiment la saison, enfin c'est un peu, voilà, c'est pas aussi flagrant que l'exemple de Joe Flacco que je prenais tout à l'heure, mais l'échantillon me paraît un peu plus large avec CJ Stroud qui en plus lui est tout seul sur le poste là où par exemple Jahmyr Gibbs tournait aussi avec David Montgomery. Donc il y a le côté aussi où on peut souffler de temps en temps et revenir justement pour faire mouche avec son style si atypique quoi.
Et j'aurais presque envie de dire que aux Lions, le rookie offensif de l'année serait peut-être Sam Laporta, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il méritait parce qu'il a été très
Plus que
régulier.
Gibbs, ouais, je te rejoins, ouais, à mon
Ouais.
sens.
Côté défenseur, Grégory, on a aussi là une belle QV. Will Anderson, qui est nommé, Jalen Carter, le joueur des Eagles, Joey Porter Jr., Kobe Turner et Devon Witherspoon. Est-ce que tu as. Alors, il y a pas mal de joueurs hein, qui auraient pu être nommés. Est-ce qu'il y a un oublié flagrant pour toi? Et puis surtout, vers qui? Il n'est pas évident hein, celui-là, parce que tous méritent. Il n'y en a pas forcément un sur toute une saison qui a explosé, je dirais. Donc, c'est pas évident, mais il y a du beau nom. Il y a des beaux noms.
Oui, dans les noms que j'avais bien aimé cette saison, Khalidja Kansi, je trouve, à Tampa, qui a fait quand même une bonne campagne. Mais là encore, je trouve rien de spécialement infamant dans les noms que tu as cités. Ouais.
Un favori, quelqu'un, on nous parle sur le chat de Witherspoon. Est-ce que le joueur des Seahawks pour toi serait le favori ou tu vises quelqu'un d'autre? À qui le donnerais-tu?
Oui, Witherspoon a quand même pris une certaine importance du côté de Seattle. Je pense que j'hésiterais peu. Peut-être avec Kander. Rappelle-moi la liste des 5, s'il te plaît.
Alors on a Will Anderson qui est le joueur des Texans. On a
Oui.
Jalen Carter aux Eagles, Joey Porter Jr., le cornerback des Steelers, Kobe Turner, le joueur des Rams, et Devon Witherspoon, donc le cornerback des Seattle Seahawks.
Carter, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il fait un énorme début de saison, mais que malheureusement, il pâtit aussi de la fin en eau de boudin des Eagles. Ouais, à choisir entre Anderson et Weatherspoon. Bon. C'est un peu bête comme argumentation, mais on l'a donné à un Texan pour l'attaque. Je vais le donner à Devon Witherspoon de par l'implication qu'il a réussi à avoir dans ce backfield défensif. Et ça confirme les bons choix en plus des Seahawks ces dernières années. Voilà, quand tu arrives à récupérer et Tariq Woolen et Devon Witherspoon 2 années de suite, on se déroule pas
Ouais.
trop mal niveau draft de rookie du côté de Seattle ces dernières années. Donc non, non, Devon Witherspoon qui a en plus un rôle extrêmement hybride qui peut jouer absolument partout. Donc c'est quand même à valoriser à mon sens.
Ouais, et ben moi je vais aller vers Will Anderson avec voilà la pression d'un joueur drafté très haut, on l'a dit, et puis en effet un joueur qui a été très important dans le système défensif. C'est vrai qu'on l'a, disons qu'on en a un petit peu moins parlé parce que forcément il est arrivé en même temps que CJ Stroud. C'est forcément l'attaque qui a un petit peu mieux performé que la défense. En tout cas, c'est celle qui était sous le feu des projecteurs. Mais il fait une très belle saison. Pour moi, ça sera Will Anderson. Mais c'est vrai que c'est, comme tu l'as dit, pas infamant que ça aille vers Devon Witherspoon. On nous parle de Brian Branch, le défenseur des Lions aussi. Là aussi, on parle de rookie des
Oui.
Lions qui n'est pas dans les 5. C'est vrai qu'il aurait pu. Il aurait pu mériter une petite dédicace. En tout cas, Brian Branch, on le dit, il a été important et ça montre aussi, hein, on cite beaucoup de rookies aux Lions, ça montre aussi la belle draft de Détroit cette année, ce qui est vraiment quelque chose à retenir. Justement, les coachs de l'année, Grégory, les 5 nommés, je vais te les donner. Dan Campbell, qui est le coach des Lions. Et encore une fois, on rappelle, il faut, aussi difficile que cela puisse être, géré, en tout cas jugé uniquement sur la saison régulière. John Harbaugh, le coach des Ravens, D'Amico Ryans, on a parlé des Texans, Kyle Shanahan, 49ers, Kevin Stefanski du côté de Cleveland. Je te vois faire froncer
ouais,
les yeux.
Attends, je suis assez étonné. Il y a un coach que j'aurais peut-être mis dedans. Alors attends, parce que du coup, je suis un peu.
En tout cas, en attendant que tu cherches peut-être, il y a John Harbaugh, il faut le savoir, qui a déjà été élu coach de l'année, c'était en 2019. Kevin Stefanski, lui, c'était en 2020. Voilà, ils sont là, les cinq noms, avec Dan Campbell qui a fait gagner la division aux Lions, John Harbaugh et Kyle Shanahan qui ont amené leurs équipes premiers de leurs conférences respectives, D'Amico Ryans qui a fait un boulot formidable avec une équipe qu'on n'attendait pas du tout en playoff, et Kevin Stefanski qui termine avec 11 victoires cette saison. Voilà,
donc Sean McVay n'est pas dedans.
Sean McVay n'y est pas, et c'est vrai que ça aurait pu être un coach cité, parce que on le rappelle, hein, les Rams en début de saison, personne n'y croyait, nous les premiers.
Moi, ils étaient top 5 de la draft, hein, je le dis très honnêtement, j'ai aucun problème à dire que quand je me trompe, mais moi, pour moi, je les voyais vraiment au fond du trou.
Écoute, en tout cas, je crois que tu n'étais pas là, donc en plus, je vais me mettre un tir à moi aussi, mais je crois qu'avec Alain et Raphaël, on les avait mis 29e du power ranking de début de saison.
Bah, à l'époque, parce que le révisionnisme c'est très facile en NFL, mais à l'époque oui, ça m'aurait pas semblé déconnant. Après, la liste est très belle, hein. Franchement, je pense que n'importe quel nom que tu nommes me paraît pas mal.
Évidemment.
C'est vrai que le truc, en fait, c'est toujours pareil, c'est que Ryan, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, mais si tu pars sur le prisme de Stroud qui a joué un rôle extrêmement important, bah, de fait, ça dévalue un peu ce qu'a fait le.
Ouais.
Enfin, ça dévalue pas, mais. Ben voilà, tu vois, c'est un peu l'œuf et la poule, comme disait l'autre.
C'est ton fameux poteau du milieu, ça.
Et voilà, c'est ça. Bon, écoute, il faut bien que chacun ait sa petite phrase. Donc,
Exactement.
C'est plus là-dessus. Ouais, je mettrais peut-être plus Stroud en avant que Ryan, même si son boulot a été énorme, bien entendu. Moi, j'hésiterais un peu entre Stefanski, qui est quand même pallié à de nombreux problèmes de quarterback tout au long de cette saison, problèmes d'effectifs plus globalement. Et alors, je suis désolé, du coup, j'ai des trous de mémoire. Stefanski ou
D'Amico Ryans, Kyle Shanahan, Kevin Stefanski, John Harbaugh et Dan Campbell.
Dan Campbell, c'est compliqué quand même. Hein. Stefanski ou Campbell, un des deux, mais tu vois, même si en effet on prend que les playoffs, ça me paraît compliqué de pas le donner à Dan Campbell. Il y a toute une culture qui a été changée du côté de Détroit. C'est une équipe qui a joué les yeux dans les yeux avec pas mal de formations. Le fameux match polémique à Dallas, enfin voilà, c'est une équipe qui est en plein essor et ça me paraît compliqué de ne pas récompenser ce travail-là avec cette nomination.
Ouais, dans le chat, alors on te chambre quand tu cherchais le nom de l'entraîneur, hein, on disait, est-ce que tu es en train de chercher le nom d'Arthur Smith? Je crois pas. Je crois pas que tu cherchais le nom d'Arthur Smith. En tout cas, Didier
Oui, j'aurais pu.
Starkiller 93 nous dit D'Amico, il fait avec le FC Infirmerie qui lui a pris des joueurs et ça part au playoff. On parle de Campbell et D'Amico Ryans. C'est vrai que pour moi, je vais peut-être, et ce n'est pas forcément le plus populaire dans le chat notamment, mais je vais aller avec Kevin Stefanski. Tu as donné les raisons, mais pour moi, ce serait la difficulté d'amener une équipe en playoff avec les nombreuses blessures au poste de quarterback. On a parlé de Joe Flacco tout à l'heure, mais on a vu que Joe Flacco, ce n'était pas assuré qu'il performe. Hein. On l'a vu l'année dernière aux Jets, il a joué autant de matchs et il n'a pas performé. Kevin Stefanski a réussi à le faire performer. On rappelle que Nick Chubb a été blessé très rapidement dans la saison. C'est peut-être leur meilleur joueur offensif qui a été absent. Et il a réussi tout de même à amener son équipe à 11 victoires. C'est vrai que c'est moins bien que Dan Campbell qui était à 12. Et je pense que le matos qu'avait Kevin Stefanski sous la main était peut-être un petit peu moins performant, un petit peu moins talentueux. Et c'est pour ça que je donnerais à Kevin Stefanski. En revanche, c'est vrai que voilà, de voir Kevin Stefanski avec deux titres de coach de l'année en 3 ans, ça ferait un petit peu tiquer. Hein,
mais
je dis pas
c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est mon côté un peu Jacques Martin. Mais tu vois, je me dis, bon, en plus, Stefanski en a déjà eu un, ce qui n'est pas le cas de Campbell. Donc, tu vois, en plus, si
c'est
tu
vrai.
veux un petit peu récompenser tous les coachs de la ligue, bon, pourquoi pas.
Oui, c'est vrai. On rappelle que le coach, pour l'instant, le coach de l'année en titre, hein, c'est Brian Daboll, l'entraîneur des Giants. Ouais, ça peut vite changer. Un tout petit mot, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais il y a aussi le titre d'assistant de l'année. C'est assez récent, le titre d'assistant de l'année. Les nommés sont Ben Johnson, le coordinateur offensif des Lions, Mike McDonald, on en a parlé, le coordinateur défensif des Ravens, Todd Monken, le coordinateur offensif des Ravens, et je crois que tout à l'heure, je les ai inversés d'ailleurs. Hein. Jim Schwartz, on parlait de la défense des Browns, le coordinateur défensif, et Bobby Slowick, le coordinateur offensif des Texans. Est-ce que y en a un qui sort du lot pour toi?
C'est dur, mais là, pour le coup, j'aurais quand même du mal à pas le donner à Mac McDonald vu la grosse défense des Ravens cette saison.
Ok, c'est vrai que c'est ça aurait pu, hein, on le répète, hein, meilleure équipe de cette AFC, meilleure équipe de la NFL, en tout cas en termes de bilan à la fin de la saison régulière. Après, il y a aussi des assistants qui ont de la hype, Ben Johnson, Bobby Slowik, on en parle beaucoup. Allez, moi je vais dire Ben Johnson parce que j'ai donné à Kevin Stefanski le titre de coach de l'année. On va féliciter et quand même récompenser l'année des Lions. Ça sera Ben Johnson pour moi, le coordinateur offensif. Mais c'est pas évident en tout cas.
Clairement.
On va rentrer dans les trois derniers trophées. Meilleur défenseur d'abord
Ah, je vais me faire
avec
des amis, je sens. Je vais
ouais.
bientôt me faire des amis. Oui, meilleur
Allez.
défenseur, je
Alors,
t'écoute,
meilleur
mon
défenseur,
Jake.
c'est le moment où on se fait des amis,
Oui.
restez bien là. Je vais te donner les cinq nommés, mais tu peux partir où tu veux, hein. Tu peux nous donner qui tu veux. Darren Bland, d'abord le cornerback des Cowboys. Max Crosby, Miles Garrett et Micah Parsons, c'est les trois defensive ends, des Raiders, des Browns et des Cowboys. Et on termine avec TJ Watt, qui est linebacker, pass rusher, hein, linebacker extérieur des Steelers. Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Est-ce qu'il y en a un déjà qui a été oublié? Je te dis ça parce que
Là,
moi, parce que pendant que je te
vas-y.
vois réfléchir, Daniel Hunter, pour moi, pâtit d'une saison des Vikings compliquée, mais il livre une saison. Et pour moi, il a été dans la course pendant un moment. Je ne dis pas qu'il aurait mérité d'avoir le trophée, parce qu'il y a des monstres, hein, mais peut-être que on va dire, allez, dans les cinq, même si c'est toujours compliqué, parce qu'on va me dire, mais tu enlèves qui? Allez, j'aurais peut-être enlevé Max Crosby. Dans ces cinq-là, même s'il fait une belle saison, le DN des Raiders, j'aurais peut-être mis Daniel Hunter, le pass rusher des Vikings.
Non, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Bah, je sais pas si Danny Hunter paye ce côté peut-être moins glamour que d'autres, mais
Oui, dans une équipe
on
peut-être
l'entend moins que
aussi.
Max Crosby.
Oui,
Mais c'est
clairement.
sûr que oui, ça a été extrêmement performant dans une équipe qui a quand même, faut le rappeler, frôlé les playoffs là encore avec une infirmerie assez bien chargée, notamment en fin d'année. Donc oui, ça me paraîtrait pas déconnant. Pour répondre à ta question initiale. C'est quand même compliqué. On parle d'MVP dans une équipe, mais à mon sens, c'est pas d'évaluer les autres joueurs dans leurs autres équipes, dans leurs autres équipes, mais TJ Watt a l'air d'avoir un poids tellement énorme du côté de Pittsburgh. Moi, je me sens encore obligé d'aller vers lui pour cette récompense-là.
Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est compliqué de ne pas aller vers TJ Watt. On peut vous donner les statistiques aussi, hein. D'ailleurs, TJ Watt, il a 19 sacs cette saison, sur la saison régulière uniquement. 4 fumbles forcés, 3 fumbles recouverts, une interception. Là où Micah Parsons est à 14 sacs, Miles Garrett est à 14 sacs, Max Crosby est à 14,5. Alors, je sais que les statistiques ne sont pas l'alpha et l'oméga du joueur défensif, mais c'est vrai qu'on a tendance forcément à regarder un petit peu plus cette statistique de plus près. Et puis surtout, comme tu le dis, pour TJ Watt, il y a ce côté, la défense des Steelers est totalement différente quand il n'est pas là. C'est vrai que c'est une bonne défense, mais quand TJ Watt est là, c'est une défense exceptionnelle parce que je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Et en effet, moi, je le donnerais. Un Miles Garrett ne serait pas très loin, je pense, mais peut-être que la fin de saison est un tout petit peu plus compliquée pour lui.
En fait, c'est le souci, c'est-à-dire que son rôle est éminemment important du côté de Cleveland. On a vu que dès qu'il a été blessé, ou en tout cas diminué du côté de la défense des Browns, forcément le rendement n'était pas le même. Donc c'est sûr que oui, on ne peut pas occulter le rôle qu'il a eu dans une équipe qui a joué les playoffs. Mais est-ce que Pittsburgh aurait eu la moindre chance de playoffs sans TJ Watt?
Je pense que la réponse est assez clairement non.
C'est un peu mon propos. Et c'est aussi pour ça que Stefanski est nommé dans les coach de l'année, là où par exemple Mike Tomlin, malgré l'énorme travail, notamment statistique, qu'il arrive à réaliser depuis son arrivée à Pittsburgh, ne l'est pas cette année.
En tout cas, voilà, les cinq noms, voilà, un des cinq de ces cinq noms, on n'a pas parlé de Darren Bland. Je pense qu'il est, il, alors lui, c'est 9 interceptions et 5 touchdowns retournés. C'est vrai que
C'est
c'est une
fou, hein, pour
belle.
un joueur qui était drafté en je sais pas quel tour il est sélectionné, mais choix obscur entre guillemets de Louisiana Tech à l'époque. Et ouais, dans cette défense de Dallas, il s'éclate depuis l'année dernière, c'est
Ouais.
assez dingue.
avec un Diggs qui s'est blessé assez rapidement. Il a pris le relais du cornerback de fort belle manière. En effet, Nick Bosa, qui était le défenseur de l'année l'an dernier, mais si TJ Watt venait à le gagner, ce serait la deuxième, mais il serait à la poursuite de son frère, qui en a gagné trois, on le rappelle. Et pourquoi pas, parce qu'il lui reste encore de belles années. On nous parle aussi dans le chat d'un Josh Allen qui aurait pu être mentionné, le défenseur des Jaguars, qui fait en effet une belle saison, l'une des rares éclaircies du pass rush des Jaguars cette saison. Mais voilà, encore une fois, et Daniel Hunter, c'est 16 sacs aussi. C'est plus que 3 des 5 ici. Et encore une fois, ce n'est pas forcément que cette statistique-là qu'il faut compter. On va parler du joueur offensif désormais. Et là, ça va être compliqué parce que je n'ai pas tout à fait compris les nommés. Entre les MVP, les joueurs offensifs, il y a des joueurs qui sont dans le titre de MVP mais qui ne sont pas joueurs offensifs. C'est toujours un petit peu particulier. En tout cas, on a en nommé Tyreek Hill, le receveur des Dolphins, Lamar Jackson, quarterback des Ravens, CeeDee Lamb, receveur des Cowboys, Christian McCaffrey, côté 49ers, coureur des 49ers, c'est Dak Prescott. Ça fait deux joueurs des Cowboys. Là
En
aussi,
défense.
il y a beaucoup de monde, pardon.
Comment en défense?
Comme en défense. Et c'est vrai que cette équipe-là, elle a mis deux joueurs dans les meilleurs
C'est dire le
attaquants
bon
de la
travail de
NFL.
Mike McCarthy en playoff.
C'est exactement, exactement. Il faut jamais perdre une occasion de mettre un petit tir à Mike McCarthy. Voilà, ça c'est notre mantra. En tout cas, là aussi, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Quelques noms qu'on aurait pu mettre, mais cette liste-là de 5, elle n'est pas forcément déconnante. En tout cas, il y a des joueurs qui ont fait de grosses saisons.
Oui, non, dans les noms que tu me cites, là c'est pareil, y a rien qui m'étonne. Alors, je vais donner mon favori, sachant que le MVP, je discerne le MVP et le joueur offensif. Donc ne vous offusquez pas si mon joueur offensif, si je cite un joueur offensif qui pour vous est MVP, hein, ça veut pas dire qu'il sera pas MVP. Enfin, ça veut pas dire que le joueur que vous soutenez ne sera pas MVP de mon
Et
côté.
là, vous voyez pas les mains de Grégory, mais il est en train de prendre des pincettes
Oui,
totalement.
un peu. Non, mais bah, mon joueur offensif de l'année, je suis désolé, mais Tyreek Hill, quoi. C'est enfin, encore une fois, on parle de joueurs précieux. Alors, il sera pas MVP parce que c'est un receveur, mais Tagovailoa a fait une bonne saison, mais la saison de Tyreek Hill est stratosphérique. Je veux dire, l'impact qu'il a réussi à avoir, même après la blessure, notamment de Jalen Waddle, voilà, c'est un choix qui a été payant du côté des Dolphins. C'est l'emblème, on va dire, du nouveau système offensif de Miami. C'est voilà, c'est un joueur qui est capable de faire des matchs à 200, 250 yards à la réception. Enfin, ouais. Pour moi, c'est impossible, à mes yeux, hein, encore une fois, de ne pas mettre Tyreek Hill en joueur offensif de la saison.
Tyreek Hill, c'est 1799 yards. Hein. Il a un tout petit peu ralenti sur la fin de saison, mais c'est vrai qu'il a fait une saison incroyable. 13 touchdowns à la passe, donc à la réception pour lui. Moi, je mettrais plutôt un Christian McCaffrey, Grégory, et c'est peut-être celui-là que tu vas mettre en MVP. Et là, tu te feras encore plus d'amis, je pense.
Sans doute.
On verra. Mais moi, je mettrais Christian McCaffrey parce que déjà, je suis team, le joueur offensif ne doit pas être un quarterback. Parce que le MVP va quasiment 9 fois sur 10, allez, 99 fois sur 100, en tout cas, être un quarterback parce que la position est trop importante. Et on parle d'un receveur, mais c'est vrai que souvent, eh bien, si un receveur performe, on peut se dire bah, c'est aussi grâce au quarterback. Alors que l'inverse est plus rare. Donc, c'est vrai que c'est difficile de donner un MVP à un autre joueur qu'un quarterback. Donc, je mise souvent sur le joueur offensif qui n'est pas le meilleur joueur offensif qui n'est pas un quarterback, je dirais. Et pour moi, c'est Christian McCaffrey. Hein. Il sort d'une saison incroyable, 1459 yards à la course, 14 touchdowns au sol. Il a enchaîné, en tout cas additionné 564 yards dans les airs, 7 touchdowns à la réception. C'est le joueur qui a gagné le plus de yards après la ligne de scrimmage, tout confondu. Donc, c'est vrai que pour moi, dans l'optique où je ne vais pas lui donner le titre de MVP, voilà, je spoil, je le mettrai en tant que meilleur joueur offensif. Et du coup, ce qui me fait la transition rapidement, est-ce que c'est ton MVP, Grégory, ou pas?
Et ça, c'est
McCaffrey.
McCaffrey? Bien entendu que c'est mon MVP.
C'est bien ce que
Bah écoute,
j'imagine.
moi j'en suis pas caché depuis des semaines et des semaines, mais moi, oui, j'ai rien contre le fait qu'on le donne au meilleur quarterback de la saison, mais à mon sens, quand on a un running back qui marque de son empreinte autant cette campagne avec le nombre de touchdowns qu'il a inscrit entre la fin de la saison dernière et cette saison-là, on l'a encore vu en playoff. On répète, hein, on regarde principalement la saison régulière, mais quand on voit encore le fait que c'est lui qui arrive notamment à débloquer le verrou face à Green Bay en demi-finale en tour de division. Voilà, pour moi, le meilleur joueur non quarterback de cette saison, pour rejoindre ce que tu disais, c'est Christian McCaffrey. Et je trouve que son impact à San Francisco est encore plus notable, ou en tout cas tout autant notable à mes yeux, que potentiellement ton MVP.
Oui, mais forcément, c'est pour ça que j'ai enchaîné, parce que bon, on n'était pas d'accord forcément sur le meilleur attaquant. Pour te répondre juste sur Tyreek Hill, pour moi, il a un petit peu trop a été en difficulté en fin de saison, notamment avec l'absence de Jalen Waddle, tu l'as dit,
Ah,
il a
c'est ça,
continué
plus
de
surveillé
performer,
aussi, ouais.
mais il a été plus surveillé en effet. Et
Avec
sur le
Tagovailoa qui
MVP,
lançait à 2 mètres de haut,
ouais, c'est plus
en
compliqué,
pensant
même
qu'il avait pris un
si.
peu de soupe.
C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, sur les MVP, les nommés, en tout cas, c'est là aussi que j'ai pas tout à fait compris, parce qu'il y a deux joueurs qui arrivent là, MVP, qui ne sont pas nommés sur les joueurs offensifs. Il y a Josh Allen, le quarterback des Bills, et il y a Brock Purdy. Et Dak Prescott aussi, pardon. Il y en a trois. Il y a trois quarterbacks qui sont là, qui n'étaient pas forcément nommés pour les joueurs offensifs.
Donc
C'est
c'est qui le
toujours un petit peu.
cinquième avec là-bas?
Et donc c'est Lamar Jackson, Christian McCaffrey, Dak
Ah oui,
Prescott,
il y a quand
Brock
même
Purdy.
McCaffrey dans les cinq. Attends,
Oui, pas de souci.
là
Pas de
j'allais
panique.
m'évanouir là.
Pas de panique, pas de panique, Christian McCaffrey est bien là. Et
D'accord.
c'est vrai que tu as donné tous les arguments et que je ne peux pas nier, puisque c'est pour ces arguments-là que je lui donne le titre de joueur offensif. Mais c'est vrai que pour moi, Lamar Jackson a de la valeur, plus de valeur que McCaffrey. Et pourtant, McCaffrey a beaucoup de valeur, mais il a plus de valeur. Et pourtant, ses statistiques, en effet, ne sont pas faméliques. Cette saison, Lamar Jackson, il est à 3678 yards à la passe, 24 touchdowns, 7 interceptions. Il a 820 yards au sol et 5 touchdowns. C'est pas forcément des statistiques de MVP, dira-t-on. En tout cas, c'est pas ses statistiques de MVP quand il l'a été en 2019. Il n'empêche que c'est le meilleur joueur dans la meilleure équipe de la ligue. Que c'est un joueur qui a porté cette équipe tout de même, même s'il y a beaucoup de talent. Je pense que si on enlève ce joueur-là, je ne suis vraiment pas sûr que les Ravens soient à ce niveau-là. Donc pour moi, Lamar Jackson, de peu, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est lui le MVP.
D'accord avec tout ce que tu as dit, sauf que c'est le meilleur joueur intrinsèquement de cette équipe, ça on est d'accord à 100%. Maintenant, peut-être que je me trompe, hein, encore une fois. Hein, pour moi, la défense de Baltimore joue un plus gros rôle que l'attaque cette année. Mais c'est que mon avis, et c'est pour ça d'ailleurs que je donnais la récompense tout à l'heure à Mike McDonald. Mais c'est juste une question de perception.
Oui, c'est vrai que. Et ça joue beaucoup, parce qu'on vous donne des statistiques. Forcément, c'est très important, notamment dans ce sport. Mais il y a aussi beaucoup de perceptions. On parle de, je l'ai dit, de most valuable player, donc de joueur qui a le plus de valeur pour une équipe. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? C'est toujours le débat. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on débat et pour ça qu'on aime débattre sur ce genre de choses, parce que chaque personne qui va voter différemment. Et pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est de voir des joueurs qui sont dans les nommés du MVP et qui sont joueurs offensifs, mais qui ne sont pas dans les nommés du joueur offensif. Donc c'est en effet toujours de la perception, de l'interprétation, et chacun en a une différente. Pour moi, c'est Lamar Jackson. Ça lui ferait un deuxième titre de MVP si c'était le cas, parce qu'on ne va pas se mentir, ça reste quand même le favori. Je ne sais pas au niveau des cotes, parce que je pense que les Américains ont des cotes pour tout. Je pense que c'est lui le favori au niveau des cotes, mais ça ne va pas se jouer à grand-chose en tout cas. Je serais curieux de voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, il y a du beau monde. Brock Purdy, pour toi, pas invité. On sait que ça a été aussi le débat. Tu parlais de Christian McCaffrey. Pour toi, Christian McCaffrey a plus de valeur et est devant un Brock Purdy assez facilement.
Alors, assez facilement, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, c'est vrai que c'est un joueur qui est très polarisant, et je ne veux pas rentrer dans ce truc de il est extra bon, il est trop nul. Enfin, voilà, pour moi, je pense que l'équilibre est entre les deux. Il répond parfaitement aux responsabilités qui lui sont données l'année dernière, et je parlais du rôle qu'il faut assumer quand on est deuxième choix de la draft. Bah, il y a un rôle qui est tout autant à assumer quand on sort de nulle part et qu'on doit driver un candidat régulier au Super Bowl. Maintenant, c'est vraiment juste la logique de dire que le meilleur joueur intrinsèquement de cette équipe-là, pour moi, est le running back. C'est juste ce principe-là. Brock Purdy, en effet, il a eu ce petit trou d'air qui est coïncidé en plus avec les trois défaites de suite des Niners en milieu de saison. Après, globalement, son exercice est très bon. Il a progressé en termes de production pure et dure. Donc voilà, il a quand même réussi à rester clutch sur pas mal de rencontres cette année. Donc voilà, c'est juste que pour moi, c'est. D'ailleurs, le deuxième joueur offensif, certains pourront dire que Deebo Samuel a une importance très importante, mais en termes de production pure et dure, pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur offensif de San Francisco.
En effet, c'est vrai que ça peut se débattre. En tout cas, voilà. Et c'est vrai que pour Christian McCaffrey, pour revenir sur lui et peut-être pour terminer, il n'a pas manqué beaucoup de matchs cette saison. Donc, on n'a pas pu voir ce que valait San Francisco. Et tant mieux pour les supporters des 49ers sans lui. Mais c'est vrai que l'an passé, ça ne rend pas forcément en considération. Mais on l'a vu, quand il manque des matchs, Christian McCaffrey, c'est vrai que cette équipe-là, elle est bien différente. On n'a pas forcément eu l'occasion de le voir cette année. Tant mieux. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être pu, paradoxalement, ça aurait pu paradoxalement miser, en tout cas donner un petit peu de crédit à sa candidature. En tout cas, voilà, je sais pas si c'est une info, mais Zinku sur le chat nous dit on ne peut même plus parier pour le MVP tellement Lamar est favori. Donc ce n'est pas serré aux États-Unis. Bon, voilà, en tout cas, il y a des chances que Lamar Jackson gagne son deuxième titre de MVP, peut-être aidé aussi par le fait que ça soit une position qui est forcément, par définition, plus importante que le running back et du coup les running backs ont du mal à rivaliser. Voilà, en tout cas, voilà les pronostics pour les trophées, en tout cas les trophées qu'on voulait donner. Hein. Ce n'était pas forcément nos pronostics, c'était plus les trophées qu'on voulait donner pour toutes ces catégories. Je pense qu'on a fait le tour, Grégory. Et puis, comme on le disait, rendez-vous lors de la semaine du Super Bowl, lors des NFL Honors, qui se déroule quelques jours avant le Super Bowl. Donc, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Vous aurez bien entendu tout ça sur le site avec, on l'espère, on croise les doigts, Victor Roulier qui sera pas très loin dans le secteur du côté de la côte ouest.
J'espère pas dans un casino. Ouais.
Exactement, du côté du désert du Nevada, au milieu de tous ces casinos et du strip. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Las Vegas, mais,
non.
Mais c'est vrai que bah, écoute, il va avoir voilà, beaucoup de choses, de distractions. On espère qu'il sera focus parce que ça sera certainement un grand moment. On ne connaît pas l'affiche, mais la NFL est faite de telle sorte que l'affiche sera forcément incroyable.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.